J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche enneigé. Donc, j'aimerais simplement, avant de prendre un temps pour remettre ce temps où je vais être en avant à parler ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais simplement vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti seul à vivre quelque chose de difficile? Et ce matin, c'est un peu la raison de mon message. C'est que on est appelé en tant que croyant à vivre unis d'une façon spéciale, d'une façon qui est, j'ai pas d'autre mot pour le dire, inhumaine. Unis par quelque chose qui est plus fort que les liens du sang, que les liens de la famille, qu'un lien d'amitié. Mais en même temps, on est appelé à être divisé ou séparé du monde. Et c'est deux choses qui, lorsqu'elles se complètent, vont disparaître. Non, vont remplir le croyant et lui permettre d'atteindre le but pour lequel il a été sauvé. Mais juste avant, parce que je trouve que c'est très important qu'on comprenne mon arrière-pensée avant de me lancer. Premièrement, j'ai appris mercredi soir que Adama était malade, ça fallait le remplacer. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu as quelque chose de prêt? Ben là, non. Mais est-ce que tu penses que tu serais capable? Est-ce que le Seigneur te met quelque chose à cœur? T'as-tu? Et ce que je lis ces temps-ci, je lis beaucoup de livres. Ben beaucoup. Ben deux, c'est plus que un, c'est beaucoup. Je lis beaucoup de livres sur des gens qui ont un amour pour les non-croyants. Des gens qui ont compris la valeur d'une âme humaine et qui sont touchés et poussés à bouger pour simplement l'amour de leurs frères et sœurs. Contrairement à ma mentalité, ceux qui me connaissent un peu plus, moi je suis terre à terre, c'est blanc, c'est noir, tu te sens pas bien dans tes émotions. Moi, je ne peux pas m'en contrefoutre plus. La parole de Dieu dit ça, si tu vis quelque chose, c'est pas grave, la parole de Dieu dit ça, on avance, puis on tasse, on est des bulldozers, un truc à vidange, je vais vous domper de l'information, c'est pas grave. Mais c'est ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que je vous parle de ce texte-là. Parce que peut-être que pour certains, ça va être bizarre, excusez ma barbe, mais le texte que j'ai choisi, c'est Matthieu 10, 32 à 42. Le prix d'être un disciple. Et là, il y en a qui vont se dire, pourquoi est-ce que tu dis ça, puis ton message, c'est diviser du monde ou séparer du monde, uni dans notre salut? Bien, vous allez voir. Donc, pendant que vous vous préparez à tourner dans le texte, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, on veut simplement s'approcher de toi ce matin. Te demander de nous préparer à ce que ta parole a pour nous. Que tous et chacun ici, on puisse se concentrer sur ta personne, ton œuvre dans nos vies, et qu'on puisse accepter de voir qu'on a encore plus besoin de toi. Seigneur, on est tous conscients de ton salut qui est complet à la croix. Mais ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous encourager, nous aider à atteindre ce but qui est de te ressembler, Seigneur, d'être transformé de victoire en victoire pour ressembler à ton Fils. Te ressembler, Seigneur. Quelque chose qui est impossible à un cœur humain d'atteindre. Que tu puisses nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Un amour qui va au-delà des apparences, au-delà des liens de sang. Et une unité qui a pour seul but de te glorifier, Seigneur. Que tu puisses nous aider à abandonner tout ce qui peut nous détourner de toi et qui peut être un fardeau. Et que tu puisses nous unir dans un but commun qui est de te glorifier et de t'adorer, Seigneur. et par le fait même te faire connaître à nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, mets ta main sur nous, répands ton Esprit Saint pour que ce matin ton nom soit béni par la puissance de Jésus. Amen. Donc, je vous réinvite à tourner dans Matthieu 10, verset 32, qui nous dit « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et donc ici ce matin, on va parler de trois choses. Je les séparais en trois. Ben, en fait, quatre, mais il y en a qui sont ensemble. On a une confession à faire devant les hommes. Une confession qui va changer notre vie. Mais pas seulement la nôtre, elle doit changer la vie des gens autour de moi. La façon que mon frère ou ma sœur va me voir. La façon qu'ils vont me regarder si j'ai une attitude quelconque. Cette confession-là, c'est plus que le dire. C'est une profondeur intense dans votre vie qui va vous transformer jusque dans votre, en anglais ils disent le inner self, là, votre intérieur, votre pensée, votre âme. Le deuxième point, c'est que la parole nous dit ici, Jésus nous dit que on doit avoir un amour pour lui, et c'est très important, un amour pour Jésus qui va surpasser la plus forte de toutes les amours. Et le dernier point, on va devoir tout abandonner et accepter cet abandon du monde, cette division. Et ce matin, quand je l'ai dit, ça peut avoir l'air difficile, ça peut avoir l'air dur, ça peut avoir l'air intense, mais ça l'est. Sauf que j'ai une bonne nouvelle que je peux vous dire. C'est que c'est pas vraiment votre job. Et c'est pas vraiment dans vos capacités. Et c'est hors de vous. Ce qu'on va parler ce matin doit arriver dans votre vie à un point. Et quand ça va arriver dans votre vie, que vous avez rencontré Christ, il y a un commencement qui arrive. Et ce commencement-là, on le connaît tous et chacun. Ici, on est réunis, je l'espère, en sachant que Dieu, que Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Il a pris notre manière de vivre et il l'a cloué sur le bois afin de nous permettre d'avoir accès au Père, d'avoir accès à son plein salut, à notre plein potentiel. Et donc, en sachant ces choses, c'est le commencement de toute une vie transformé pour Dieu. Donc, le premier point, on va parler de la confession devant les hommes. Je n'ai pas de petite manette, là. Donc, on va parler de confession devant les hommes. J'aimerais simplement vous lire un petit texte qui est dans Ésaïe 42. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Ça dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Merci. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne se fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ainsi parle Dieu l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et les a déployés, celui qui a étendu la terre et ses productions, celui qui a donné la respiration à ceux qui peuplent la terre et le souffle de vie à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, pourquoi je vous ai lu ce texte-là ce matin, c'est que ici, l'Éternel parle à son peuple et lui dit, « Je vais m'occuper de vous. » Je vais avoir un élu sur qui je vais mettre tout mon Esprit Saint. Et c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va vous transformer. C'est lui qui va avoir la pleine puissance. Et le verset 6 du texte, c'est dans Ésaïe 42, il nous dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Et si vous avez entendu son appel et que vous avez répondu à son appel, vous êtes maintenant capable de confesser devant les hommes. Vous êtes capable de confesser que Dieu est vrai. Vous êtes capable de confesser que cette histoire-là de péché, d'homme intérieur déchu, c'est vrai. Vous êtes capable de le voir dans votre vie. C'est le commencement de toute chose. Le commencement de la sagesse, c'est... J'essaie de vous réveiller, là. Le commencement de la sagesse, c'est... La crainte de l'Éternel. Bon, on va le refaire, OK? On va couper ça au montage. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et le commencement de la vie chrétienne, le commencement de votre histoire avec Dieu, c'est la confession que Christ est l'élu de Dieu. Que Christ n'est pas seulement un prophète. C'est de le confesser, non seulement par ma bouche, Jésus le Christ, mais par ma vie. Je suis transformé. Et non seulement ça, mais on arrive au point où je représente Christ dans ma vie. Vous savez, probablement la plupart d'entre vous, pourquoi est-ce qu'on s'appelle des chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on s'appelle des chrétiens? Parce qu'on appartient à Christ? Le mot « chrétien » vient de, je me souviens plus quelle ville, parce que je ne l'ai pas écrit. Hein? Ça, c'est une bonne idée. Mais les gens ici, dans cette ville-là, ont connu des chrétiens. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de nom. C'est qui dit ça? Antioche. Ben voilà. C'est dans la Bible, hein? C'est vrai, j'aurais pu avoir la référence. Mais il était tellement comme Christ que les gens les ont appelés chrétiens, comme Christ. Comme Christ. Et donc, si moi, je me dis, moi, je suis un chrétien. Ah ouais? Est-ce que tu rentres vraiment dans ces souliers-là? Parce que, pas moi. Mais, l'idée de confession devant les hommes, regardez à quel point c'est important et c'est drastique. Et ici, j'aimerais spécifier qu'il parle à ses disciples. Il ne parle pas à des inconvertis. Il parle à ses disciples. Des hommes qui vont partir, guérir du monde, faire des miracles et chasser des démons. Et il leur dit, « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quel est le but de dire ça à du monde qui vont partir, te représenter, guérir du monde, chasser des démons, faire le bien, partir quelque chose qui va transformer des vies, racheter des vies peut-être qui sont brisées et complètement détruites, et leur dire, quiconque se déclarera publiquement pour moi, moi je vais me déclarer pour lui, devant mon Père. Mais celui qui me reniera, je vais le renier. C'est sûr que ça va te tenter de dire, ben oui, moi je représente Christ, je peux chasser des démons, je peux faire tout, je fais du bien autour de moi. C'est sûr, pourquoi il dit là? Selon vous, pourquoi il dit ça? Réfléchissez à la chose, à quel point l'endroit dans la Bible où le texte est, c'est bizarre. C'est bizarre que ce soit là. Quand il prend les disciples, il leur donne son esprit pour faire des miracles, et il leur dit, déclarez-vous publiquement pour moi, parce que sinon, moi, je ne me déclarerai pas publiquement pour vous. C'est bizarre. J'aimerais vous rappeler que dans ce groupe de personnes, il y a un homme qui s'appelle Judas. Il y en a un qui s'appelle Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Judas, on le sait, hein, a livré Jésus. Est-ce que le fait d'avoir une puissance fait de nous un chrétien? Est-ce que ma bouche fait de moi un chrétien? Ceux qui, pour moi, c'est mon histoire préférée, je la ramène autant de fois que je peux. Un roi, 18-21, Élie qui est devant les prophètes de Baal et tout le peuple, il dit au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand allez-vous faire? Moi, je suis avec Dieu, moi, je suis avec Baal, moi, je suis avec Dieu, moi, je suis avec Baal, moi, je suis avec Dieu. » Vous avez compris? Donc, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu... L'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Donc, ma confession devant les hommes, et Élie dit, je suis le seul à suivre encore l'Éternel. Et Élie, quand il dit ça, il fait un témoignage, et on connaît la suite de l'histoire. Les prophètes de Baal font leur sacrifice, font leur danse, leur rituel. Ils essayent d'invoquer le feu. Élie, il se moque d'eux autres. Élie, il est vraiment cool. Il se moque d'eux autres. Il rit d'eux autres. Ah, ça devait être le fun. En fait, non, ça devait être stressant. Mais il rit d'eux autres. Et puis, pendant toute la journée, puis là, eux autres, ça ne marche pas pantoute. Puis là, Élie bâtit l'autel de l'Éternel. Il demande au Seigneur. Et dans la prière d'Élie, il y a une chose qui est très importante. Il dit, Éternel, afin qu'il sache que tu es Dieu. Pas pour moi, pas pour sauver ma peau, pas parce que je t'ai obéi puis que je suis tellement un bon gars habillé en peau de chameau à manger des sauterelles dans le désert. Non, parce que tu es Dieu. Et sans toi, on n'est rien. Si on n'a pas le bon Dieu ou la bonne base, on n'est rien. Ésaïe 43, verset 11, nous dit, « C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Hors moi, il n'y a point de sauveur. Aucun salut, hein, aucun autre nom. Et là, je ne vous prends pas ça dans le Nouveau Testament, je vous prends ça dans l'Ancien Testament. Hors moi, il n'y a aucun sauveur. Et ensuite, on a un témoignage verbal à avoir. La façon que je vais parler de mon Sauveur, parler de Christ, parler de ce qu'il a fait pour moi, va tout changer dans ma vie. Mon témoignage verbal, sachez que tout ce que vous dites pourra être tenu contre vous. Hein? C'est pas vrai. Mais que tout ce que vous dites a un impact sur les gens autour de vous, comment ils vont voir le Seigneur. Comment vous utilisez son nom? Comment est-ce que moi j'utilise son nom? Si je vais à l'école ou dans un DEP et je peux vous dire que les gens sont très religieux, oui. Ils connaissent tous les instruments qu'il y a dans le tabernacle, oui. Ils savent exactement où est Dieu. Ils connaissent Jésus, ils l'appellent souvent. Et souvent, moi, je me cogne, je fais « Oh! » Là, ils sont comme « Lâche-en un, ça va faire du bien. » Ça fait tellement moins mal quand tu lâches un gros sac. Là. Non, ça fait autant mal. T'sais. Comment est-ce que je vais réagir quand il y a une blague étrange? Je veux dire étrange, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs styles de blagues étranges. Là. Comment je vais réagir? Je fais « Eh bonne! » Puis là, tu t'en vas mal à l'aise. Ou il commence sa blague, puis tu le frappes dans la face. Non, c'est pas vrai. Mais il y a plein de choses dans notre vie, notre témoignage verbal. Et j'ai dit verbal parce que j'ai dit ça, mais il y a le non-verbal aussi. Il y a tout mon témoignage, ma confession devant les hommes fait partie de toute ma vie au complet, mes réactions face à des choses. Qui ici est tout le temps content quand on apprend qu'il y a des tueries, des meurtres? Ah, tant pis pour eux, c'est pas grave. Beau témoignage. Ah, de toute façon, c'est pas grave. C'était juste des musulmans. Ah, ceux qui rentrent au pays, là, les immigrants, oh, ça m'intéresse pas, là. Qu'ils restent donc chez eux. Je vous dis des choses, j'entends ça chez les croyants. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Excusez ma barbe. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit que je dois faire envers ces gens-là? Qu'est-ce que je vais confesser? Et là, les gens autour de vous, autour de moi, m'entendent parler, surtout ma femme. Et puis là, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça être un chrétien? C'est vraiment ça. Toi, là, tu dis que tu es un croyant, mais tu dis ça. Puis après ça, on va leur dire des paroles comme je vais vous lire des paroles. Dans Ésaïe 43, 21, il nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé, pas moi, l'Éternel. L'Éternel s'est formé un peuple dans le but de publier ses louanges. Je me suis formé un peuple pour publier mes louanges et tu ne m'as pas invoqué. Tu t'es lassé de moi. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as point honoré par tes sacrifices. Mais je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Et pourtant, au verset 25 d'Ésaïe 43, il nous dit « C'est moi, l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est Dieu qui dit « T'es un tout croche, je suis un tout croche, pas Dieu, moi. » Ah, ça sonne bizarre. En tout cas, mon peuple est tout croche, mais je t'ai pas sauvé parce que t'étais beau. Verset 25, regardez à quel point Dieu a un but dans notre salut. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Dieu vous a sauvé pour lui, pour sa gloire, pour que vous puissiez être remplis de lui, témoigner de lui. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je ne me souviendrai plus de leur transgression pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle pour te justifier. Dieu vous demande d'être authentique, d'être vrai, de le confesser devant tous les hommes. Et regardez, là, j'ai fait 32, hein, ça va être long. Hein? Non. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Renier Christ. Et là, on ne parle pas de renier Christ, juste de dire, ah, Jésus, ben, c'est pas mon sauveur, j'en veux pas. Il ne parle pas à des non-croyants, là. Il ne parle pas à des gens qui ne comprennent pas l'importance de Christ. Il parle à des gens qui entendent et ont une certaine compréhension, là. Et il dit, si vous me reniez devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Ça fait peur des fois, hein? Renier Christ, c'est refuser d'avancer avec lui et de le laisser faire son œuvre en nous. Vous savez, parfois, on fait une image du salut, de l'Évangile, comme une porte. Passe la porte, là, puis après ça, tu vas voir si ça va bien aller. J'aimerais vous dire que c'est ça. J'aimerais vraiment vous dire, passe la porte, ça va être correct. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire, passe la porte, ça va être correct, parce que ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible ne me dit pas que prier et confesser Jésus simplement par une petite prière va faire que Dieu va venir dans ma vie et tout changer. La Bible ne parle pas de ça. Et je sais, je reviens tout le temps avec les mêmes affaires, chaque fois que je prêche en avant, mais ça vient me toucher profondément. Que je parle à des gens qui me disent, « Ah bon, moi j'ai prié le Seigneur là, en 3-4 ans. Là. J'ai dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Merci, amen. Là, je suis sauvé. » Puis là, on va lire le verset 36, 37, 38, 39. Et on va se rendre compte que c'est bizarre. Ça n'a pas d'allure. Et donc, avoir une confession pour Christ devant les hommes, c'est vraiment de le laisser nous travailler. Et c'est prendre les versets qui suivent et les appliquer à ma vie. Donc, ce matin, moi je fais tout le temps ça, mes messages finissent tout le temps par faire des introspections. Mais ici, il nous parle, il y a une division qui arrive, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. » Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est impossible à un être humain d'aimer comme ça. C'est impossible à nous, par ma chair, d'aimer Dieu plus que tout le reste. Et d'être vivant, d'être en relation et d'être uni. Et on a quelques textes qu'on peut regarder ensemble qui nous parlent que cet amour qui vient de Dieu, elle est engendrée ou créée ou mise en nous par Dieu. Je t'ai sauvé, j'ai effacé tes transgressions pour l'amour de moi. Et parfois, on a cette idée que Dieu n'a pas le droit de dicter mes émotions. Dieu n'a pas le droit de dicter mes émotions. Si je suis fâché par quelque chose, bien, je suis fâché. Mais tu sais, vous vous fâchez, ne péchez point. Là, on s'accote sur des versets comme ça. Mais Dieu a pleinement le droit de me dicter mes émotions. Il ne le fait pas d'une façon impossible parce que, voyez-vous, si on tourne dans Genèse 22, il a demandé à Abraham quelque chose. S'il me l'avait demandé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il dit, va, prends ton fils, ton unique, et sacrifie-le. Donne-moi-le. Mon fils contre toutes vous autres, too bad. Si tu aimes ton fils ou ta fille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Et j'aimerais vous donner un clin d'œil ici. Jésus parle de lui, de Jésus, pas l'Éternel. pas le Père, pas l'Esprit-Saint, pas... Non, Jésus. Et cet amour qui est engendré par l'Esprit va produire une unité, va produire un abandon de soi et va produire une différence. Vous savez, c'est quoi le premier besoin en évangélisation aujourd'hui dans nos vies? Et je dis le premier, il y en a d'autres, là. C'est Jésus. On a tellement de programmes, on a tellement de façons, d'idées, de meetings pour arriver à faire quelque chose qui va accrocher les gens. Mais pourtant, on n'a pas Jésus. Et puis là, je ne dis pas ça pour pointer du doigt, dire « c'est pas correct ». Non. Je dis simplement le fait que, si vous parlez à un musulman, quelle est la différence entre nous et les musulmans? Il y en a plein, là. La primaire, la plus grosse. C'est Jésus. C'est la compréhension de qui est Jésus. Donc, si vous parlez à un musulman, là, et que vous êtes le genre de chrétien qui va dire « on a le même Dieu », non, pas du tout. C'est le jour puis la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Parce que si on n'a pas Jésus, comme la Bible décrit en tant que Sauveur et Seigneur de notre vie, et qu'on l'a confessé publiquement devant les hommes, par ma vie, que je suis transformé, j'ai pas Dieu. Si j'ai pas ça, j'ai pas Dieu. Donc, si j'ai pas ça, ça étant Jésus, si j'ai pas Jésus, j'ai rien. Les musulmans ont-tu Jésus? Non, ils ont un prophète. C'est un bon gars. Dans mon évangélisation, dans tout ce que je fais, est-ce que je représente Jésus? Est-ce que j'ai un amour pour Jésus? Est-ce que j'ai un amour pour lui? Pas juste pour son œuvre. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, j'irai pas brûler en enfer. Yes! Ah, et moi, j'aime ça, je ne vais pas en enfer. Mais, ça ne me tente pas vraiment d'aller au ciel, assis sur un nuage, à manger du Philadelphia et à jouer de la harpe. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent de la harpe ici, mais vous avez une longueur d'avance sur nous autres. Est-ce que j'ai un amour pour Jésus? Est-ce que j'ai un amour qui est engendré par la connaissance de Dieu? Vous savez, Dieu nous sauve pour son nom, pour sa gloire, pour sa grandeur, et il nous donne tout ce qu'on a besoin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu vous a sauvé, m'a sauvé, afin que j'aie une relation, afin que mon adoration, mon chant, même si je fausse, qu'il plaise à Dieu. Et le but du texte de ce matin, voyez ici, je dois aimer Dieu plus que tout. Et il ne me demande pas d'haïr les autres. Là. Il ne dit pas, si tu n'aimes pas Dieu plus que tout, tu n'es rien. Non, tu n'es pas digne. Et cette façon d'aimer Dieu vient de Dieu. Elle vient de connaître Dieu, de comprendre que tout ce que j'ai, ma femme, mes enfants, mes amis, ma famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Si je suis né dans une famille chrétienne, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Si je suis né dans une famille inconvertie, que j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé de Dieu, que j'ai compris que Dieu a ouvert mes yeux, merci Seigneur. Ce qu'il m'a donné, ce qui est terrestre, ce qui est passager, merci Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité? Selon la parole de Dieu, on va adorer Dieu. On va adorer Dieu pour l'éternité. Est-ce que j'ai un amour pour Dieu? Sinon, si je n'aime pas Dieu, l'éternité va être longue à Boswell. Si je n'aime pas Dieu au point de le représenter devant les hommes, l'éternité va être longue à Boswell. Boswell étant un mot très correct, j'espère. Et tout ça, on l'obtient en ayant des batteries dans la manette. OK. Par l'abandon. Abandonner toute chose. Et là, je ne dis pas d'abandonner, d'arrêter de chercher, d'arrêter d'avancer, de j'abandonne drapeau blanc, mais presque. perdre sa vie pour Christ. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie pour Christ, c'est trouver la vraie vie. Ma vie sans Dieu, c'est n'importe quoi. OK? On le voit partout autour de nous. La vie sans Dieu, c'est courir après la plus grosse bébelle, la chose qui nous attire le plus, que ce soit un mari ou une femme, que ce soit une bébelle, que ce soit le nouveau char de l'année, la maison, la job, l'argent, que ce soit, la confiance en soi, que ce soit la capacité physique, les sports, les trophées. Je peux en nommer d'autres, là. La semaine passée, on est allé à NBBI, moi et Jérémy, parce que j'avais un livre à payer, puis pourquoi envoyer un chèque quand tu peux faire 600 km pour aller le payer? Et il y avait une conférence, et la personne qui donnait la conférence, c'est Bay Forrest. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent le basket, là. Dans les années 80, 6 pieds 10, 275 livres, le meilleur poste dans la NBA en son temps. Il a joué 3 ans. Après 3 ans, il s'est déplacé un disque. Ouh, j'ai failli arracher mon micro. Il s'est déplacé un disque dans la colonne vertébrale en utilisant une machine. Lui, il joue pour les Suns, le Phoenix. Ils ont une machine défectueuse qui fait que tu pousses croche. Il n'était pas censé. Et ils l'ont appris là, parce qu'il s'est déplacé un disque. Il y avait un contrat de 2-3 millions. Et il l'a perdu. Il n'y a plus rien. Puis là, tout le monde dit, loser. T'as plus rien. Il dit, mais j'ai pas rien. Il dit, j'ai tout. Il était dans la NBA, puis son seul but dans la NBA, c'était de parler de Dieu à tout le monde. Parler de Jésus, partager, témoigner, partager. Et tout le monde était tanné de l'entendre. Tous les membres de son équipe étaient tannés. Parce que les autres, ils partaient, ils allaient virer une brosse. Là. Lui, il était là, viens-t'en, on va parler de Jésus, on va aller faire un hiking en forêt. Excusez, un hiking, c'est un anglicisme. Là. On va aller faire une randonnée en forêt, tu vas voir la beauté de Dieu. On va y aller ensemble, on va pouvoir prier. Tu sais, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin. Puis tu parles à des gars de la NBA qui ont 5-6 millions par saison. J'ai besoin de rien. Merci. Puis quand il a tout perdu son contrat, il dit j'étais allé en mission avec sa femme. Puis il dit en gros, en arrivé là-bas, les gens, ils n'ont rien. Fait que tu leur parles de Jésus. Il dit oui. Il dit je vais abandonner tout ce que j'ai, ça vaut rien. Je vais suivre celui qui peut me donner des choses que je ne perdrai pas. Est-ce qu'il a perdu sa vie? Non, il a perdu sa carrière. Est-ce qu'il a perdu sa vie? Non, il a changé d'auditoire. Il y en a eu un plus réceptif. Mais à travers toutes les choses qu'il y a, il y a la poursuite de ma vie. Celui qui conservera sa vie la perdra. Conserver sa vie, c'est faire tout ce que je peux, là. Et puis là, je vais vous le banaliser, là. Tout ce que je peux pour rien perdre. Pas perdre une scène, pas perdre de temps. Faut que j'aille tout ce que j'ai, puis faut pas qu'on me l'enlève parce que c'est ben important que je l'aille, parce que si je l'ai pas et que ça va être dur, puis moi je suis bon là-dedans, là. Faut rien que je perde, même si ce que j'ai, ça vaut rien. OK? J'aime mes bébelles. J'aime aussi le fait que dans tous les gars de ma famille, je suis le seul qui a pas de bédaine. Puis là, elle s'en vient. Fait que là, j'ai peur. Je le dis avec beaucoup d'amour pour ma famille, mais tu sais, j'étais fier, là. Ça m'a donné un coup. Je vous donne un exemple banal de ma vie à moi, mais j'ai toujours pas eu de bédaine. J'en ai pas encore, OK, mais elle s'en vient. Et depuis que je suis retourné à l'école, j'ai pris 15 livres. Mais j'ai pris 15 livres, là! Et puis là, j'étais là, j'aurais pas de bédaine, je suis pas payé la génétique à la famille à ma mère. Sûrement, c'est correct, c'est cool. Puis là, elle a commencé à apparaître. Oui, il était pas content, le bonhomme, là. Oh, il était pas content parce qu'il aime pas ça, faire des redressements assis, le bonhomme. Non. Ça, il tente pas. Et puis, voyez-vous, j'étais prêt à être comme fâché. J'étais pas fâché. J'étais comme, en tout cas, je me comprends dans ma tête, là. J'étais prêt à me dire, voyons, c'est donc bien plate. J'étais comme déçu. Et puis, c'est niaiseux, mais quand je suis déçu, moi, ma vie spirituelle est moins le fun. Et j'ai moins le... Tu sais, c'est juste parce que je suis marabout. On dirait que j'ouvre ma Bible. Hein. Je connais ce passage-là. Dieu n'a rien à me dire. Ah. Je le connais, ce passage-là. Ah. Je l'ai déjà lu, ce psaume-là. Ah, je vais le lire vite. Merci, c'est fait. Mais perdre ma vie, avoir une bédaine, ou peu importe, perdre les petites niaiseries de la vie, ça vaut rien. Parce que, et puis moi, je suis, tu sais, des fois, on sonne tous comme des niaiseux, mais il y a du monde, plus t'en sais, on dirait, plus quand tu réalises que tu t'attaches à des petites niaiseries de la vie, plus t'es niaiseux. Donc, dans la salle ici, je suis quand même assez niaiseux. Parce que j'ai pris le temps, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à lire la parole, à faire des messages, à me préparer et à prier, évangéliser, enseigner des gens quelque chose que dans ma vie, j'ai de la misère à faire. Puis là, des fois, je me trouve niaiseux, là. Moi, là, vous voulez me perdre, là, j'ai un ordinateur, je suis fatigué, je suis parti. Puis il n'y a pas plus niaiseux que ça. Puis il y a des versets dans la Bible qui disent « Rachète le temps, ton temps est compté, fais des choses intelligentes. » Moi, non, pas grave. Donc, perdre sa vie, c'est trouver la vraie vie. Mais une fois que j'ai trouvé la vraie vie, ben il faut que je la vive. Ça me sert à quoi de trouver la vraie vie? Si je la vis pas, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi d'avoir le gobelet Tim Horton qui va me faire gagner la Civic 2017 si je déroule pas mon rebord? Ça sert à rien. OK? Et vous savez, notre vraie vie, on l'a perdue dans la chute. La nature pécheresse en chacun d'entre nous, moi le premier, vient me raconter un paquet de menteries, un paquet de niaiseries, vient me faire aimer des choses que je n'ai pas d'affaire à aimer, vient détruire complètement, et que ce soit, peu importe c'est quoi, votre lutte dans la vie. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est les relations. Il y en a, ça peut être la pornographie. Il y en a, ça peut être les espèces de scénarios qu'on se fait. Qu'il faut que tout marche dans ma vie. Il y en a, ça peut être l'argent. Il y en a, ça peut être simplement la colère. Il y en a, c'est votre langage. On a tout quelque chose qui est enraciné profond, puis que c'est tellement facile à cacher. C'est tellement facile à cacher. J'arrive le dimanche matin, là, regarde, ma chemise est presque propre, j'ai remarqué qu'elle avait une tache, des beaux pantalons, j'ai un micro, je suis capable de parler. C'est tellement facile de le cacher puis de le dire à personne. Et je vais vous partager une histoire qui, c'était la première fois, je pense, que je pleurais en lisant un livre. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Ross. Ross, il vit aux États-Unis. Je ne parle pas Stéphane, là. Il vit aux États-Unis et c'est un chrétien, c'est un croyant qui a donné sa vie à Dieu. Ça faisait 3 ans qu'il était marié. Avec sa femme, ils ont rencontré des croyants, ils ont accepté le Seigneur. Sont rentrés dans un groupe de prière et là, leur vie a explosé en prière, en adoration. Ils étaient avec Dieu, ils étaient bien. Et un jour, ils étaient tellement bien avec ses frères et sœurs qu'il dit, faut que je vous confesse quelque chose. Sur mon baptistère, je m'appelle Rosie. J'étais une fille à ma naissance et j'étais tellement pas bien. J'étais tellement tout croche en dedans. Et je savais que je n'étais pas sur terre pour être une femme. Je n'étais pas bien. Puis là, plus je grandissais, plus je n'étais pas bien. Puis il dit, finalement, vers l'âge de 18 ans, j'ai eu la grande opération. Puis, si je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez jamais su. Il avait une grosse barbe, une grosse voix, bâti, costaud. Il dit, mais sur mon baptistère, je suis une fille. Mais mon identité, ce n'est pas d'être un homme ou une femme, c'est d'être un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, sauvé par le sang de Christ, qui m'amène à être complet. Ce n'est pas parce que vous êtes cool, beau, bon, fin, si vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. J'ai rien si je n'ai pas le Christ dans ma vie. Notre vie terrestre ne sera jamais complète. Et vous savez pourquoi ça m'a brisé le cœur? Parce que cette église-là a dit, on ne sait pas quoi faire avec toi. Comment est-ce qu'on te traite, là? Est-ce que toi, tu prends les enseignements pour la femme ou pour l'homme? Dans ton couple, est-ce que... Là, puis il était marié, là. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Puis il s'est fait mettre dehors de l'église. Il s'est fait mettre sous discipline. Il s'est fait demander de ne plus revenir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec toi. Au ciel, est-ce qu'on va être des hommes ou des femmes? C'est ça. Il n'y a pas de sexe au ciel. On est un enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Et j'ai une question pour vous. Deuxième question. Si ce matin, il y a deux gros poêles, il n'y a aucune autre façon de les décrire qui rentrent. 6 pieds 3, les cheveux longs de même, grosse barbe, une veste qui sent la bière, qui rentrent, qui viennent s'asseoir à côté de vous, puis ils puent. Qu'est-ce que vous faites? On se tasse d'un bain parce que ça pue. Hein? Mais c'est les membres d'un groupe chrétien que je respecte énormément qui ont fait le test. Eux, 300 soirs par année, sont devant une foule de 200 à 1000 personnes, dépendant de la place où ils sont, et ils prêchent l'Évangile non-stop, ils prient non-stop. Après le show, ils vont voir tout le monde qui veut et leur parlent de Jésus, non-stop, tout le temps. Et il ressemble à ça. Il dit, je fais 6 pieds 4, je pèse 250 livres, j'ai les cheveux mi-dos, mon chum de gars, il a les cheveux aux fesses, on a une grosse barbe, et puis là, il dit, ben on est entre deux shows, puis on a faim. Fait qu'il y a une école biblique, on va aller cogner. Fait qu'ils vont cogner à l'école biblique. Savez-vous comment ils ont été reçus? Avez-vous une idée de comment ils ont été reçus? Hein? Et les autres, ils se sont dit, on va rentrer là. Tant, salut! Puis ils vont nous dire, ben allez-vous-en, puis on va s'en aller. Ben non. Ils ont rentré, puis les gens, ils nous ont quasiment sauté dessus. Ah, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? On est content que vous soyez là. C'est quoi votre histoire? Vous venez d'où? Là, il faut vous faire une image, là. Ils sont plus grands que moi, ils sont gros, grands, grosse barbe, gros cheveux. Ils sentent la bière parce qu'ils viennent de finir un show. Ils sont en sueur. C'est quoi, ça? Ça existe, des chrétiens? Ça existe, des gens qui vivent pour Dieu, qui savent que mon apparence vaut rien si je suis sauvé? Et des fois, on a une espèce de façon de moi-même de me valoriser en disant « Moi, je fais ça pour Dieu. » Les autres pensent pas grave. Moi, je fais ça. Ça peut être le peu importe, on a tous des choses différentes dans nos vies, mais moi, j'évangélise, ou moi, je fais le ménage, ou moi, je fais des prêches, ou moi, j'enseigne l'école du dimanche. Moi, je me présente le dimanche à tous les dimanches. Moi, je donne 20 piastres par semaine. Puis, eux, dans leur vie, c'était simplement « ben nous, on fait des shows devant plein de non-croyants. » En une semaine, j'ai probablement partagé l'Évangile à plus de personnes qu'une église au complet pendant un an. Il dit, moi, je suis bon. Mais il dit, j'avais jamais vu un chrétien. Et dans un de ses voyages, il parle à quelqu'un, puis la personne dit, oui, je vis aux États-Unis, oui, mais je savais pas que ça existait, des chrétiens, comme il y a dans la Bible. Je savais pas que ça existait, des gens qui vont regarder au-delà de l'apparence, des gens qui vont regarder au-delà de mes luttes, des gens qui vont vraiment m'accueillir puis me parler de Dieu, de son amour pour moi, de son œuvre complète et parfaite, mais qui n'auront pas, même pas un, oh, tu sais, une authenticité, un amour des gens. Et ça, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais des gens qui ont abandonné leur vie terrestre au complet pour gagner la vraie vie. C'est des gens qui sont transformés. Et pourquoi je vous conte ces histoires-là? Parce que qu'est-ce que vous feriez si vous apprenez une chose comme ça? Que votre meilleur ami, c'est probable, c'est pas, c'était... Mon meilleur ami, là, c'était une fille avant. Mais là, c'est un chrétien. Non, Jérémy, c'est pas une fille, là, calmez-vous. Mais... mais... Il n'est pas là, je peux bien le dire. Mais qu'est-ce que je ferais s'il y a... Excusez, j'ai aucune autre façon de les décrire. Deux poêles qui rentrent. Est-ce que je vais les accueillir? Je vais leur serrer la main? Je les accueille dans mon église? Ça va être quoi leur première impression quand ils vont mettre le pied dans mon église, dans ma maison? où je suis à tous les dimanches pour adorer mon Dieu. Et quand quelqu'un rentre, « Oh, il y a un nouveau. Oh, »« Oh, Stéphane va y aller. »« Oh, il y a des gens à l'accueil, c'est leur job. »« Hein? Comment je réagis? Comment est-ce que moi je réagis? Moi, je suis le premier. Il y a quelqu'un qui rentre, je suis comme, « Oh boy. Bon. » On y va en se traînant les pieds. Hein? Bon. Ah, si je regarde là-bas, ils vont penser que je ne l'ai pas vu. Tu sais, on est tous comme sourds. Mais pourtant, c'est quoi le... Si on tourne dans Jean 17, comment est-ce que les gens vont savoir qu'on est vraiment des enfants de Dieu? J'ai marqué en avant, si vous ne le savez pas. C'est par l'unité dans l'Église. C'est quand un croyant est tellement authentique, tellement vrai, tellement rempli de l'amour de Christ, qu'il va passer par-dessus tout ce qu'il y a entre lui et moi, puis il va venir me parler. Tout le monde a une histoire à raconter. Et il y en a probablement ici qui ont des histoires qui briseraient notre cœur. Parce qu'ils ont vécu des choses dures. Mais ils peuvent dire merci puis gloire à Dieu parce que j'ai été sauvé et j'ai maintenant la vraie vie. Et maintenant, je vais recevoir mes frères comme si je reçois Christ. Le prophète en qualité de prophète. Le juste en qualité de juste. Celui qui a un message pour moi, je vais le recevoir comme venant de Dieu. Et si vous prenez le temps de lire les commentaires, ils vont vous dire, dans la nation juive, il n'y a pas plus haut qu'un prophète. Pourquoi? Parce que le prophète avait peut-être un mot pour le sacrificateur. Mais le sacrificateur, c'est lui le king. Puis le prophète avait peut-être un mot pour le roi. Mais le roi, s'il n'était pas d'accord, il pouvait y chopper la tête. Mais le prophète, quand tu reçois sa récompense. Tu reçois ce qu'il a. Et Dieu a donné à tous et chacun une façon, une capacité de recevoir des bénédictions profondes si on était seulement unis. Unis. Que la personne qui est en avant, j'avais pas le réflexe de dire « Oh boy, c'est lui qui prêche. » Je sais qu'on l'entend, celle-là. Moi, je l'ai dit aussi. Oh, c'est pas moi qui prêche. Non, c'est pas vrai. Mais recevoir mon frère, ma sœur, comme si je recevais Christ. Et mon frère, ma sœur a une lutte. Est-ce que je la juge ou je prie pour elle? Moi, je fais les deux, mais il faudrait que j'apprenne à couper dans la première partie. On va dire la vérité, là. Mais recevoir mon frère comme si je recevais Christ. L'unité et l'entraide dans l'Église ouvre la voie à la bénédiction. Si tout le monde ici, à tous les jours, on se mettait à prier pour les inconvertis, pour tous ceux qui ont des luttes, de la misère, de la difficulté, avec peu importe ce que c'est, qu'on se réunissait, qu'on cherchait activement la volonté de Dieu pour ma vie, pour mes frères, pour mes enfants, pour tout ce que j'ai, si je cherchais avec toute ma force, je pense qu'on verrait plus la main de Dieu encore. Si je me présentais à chaque dimanche préparé, prêt à recevoir, peu importe ce que c'est, que ce soit une bénédiction, que ce soit une claque d'en face, que ce soit un coup de pied dans le derrière, que ce soit peu importe, que je sois motivé à avancer et en sachant que l'entraide et l'unité dans l'Église, et bon, il y a une chance que personne n'a première rangée, ouvre la voie à des bénédictions de Dieu qu'on n'a jamais vues. Si vous êtes comme moi puis vous avez du temps à perdre et que vous lisez l'histoire des grands de l'histoire de l'Église, les grands hommes de Dieu qui étaient dans l'Église. Martin Luther a dit un jour, « J'ai une très, très grosse journée devant moi. Je ne passerai pas au travers à moins que je prie pendant un bon 3 heures. » Des missionnaires perdus dans le fin fond de l'Afrique se levaient à 3 heures du matin pour prendre un temps avec Dieu. Ils prenaient leur temps avec Dieu jusqu'à ce que quelqu'un vienne les chercher. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi qui me travaille, qui me pousse à avoir l'unité dans l'Église, à passer par-dessus mes besoins, mes idées, mes affaires, pour partager son nom, sa personne, son œuvre et son Fils, j'ai rien. Où est-ce que j'ai mis ma foi? Dans ma vie, est-ce que je représente Christ? Mon amour pour Dieu, est-ce qu'il est entretenu? Est-ce que je sais pourquoi je pourrais aimer Dieu? Est-ce que je suis un instrument d'unité ou un diviseur? Prends ta croix et suis Christ. Prends ta croix et suis Christ. Seigneur, je veux simplement te remercier parce que ton amour est infini, ton salut est parfait. Et tu nous appelles à être unis en ton nom. Tu nous appelles à aimer. Tu nous appelles à t'aimer toi, Seigneur. Tu nous montres qui tu es. À la croix, Seigneur, tu as commencé une œuvre complète et parfaite. Pour ton nom, Seigneur, tu nous as sauvés. Pour ta gloire, tu nous as rachetés. Et par ton amour, Seigneur, tu nous remplis de ton esprit. Tu nous pousses à comprendre nos besoins. Premièrement, de salut de toi, de ta personne, d'être racheté, d'être lavé, Seigneur. Et ensuite, de grandir, d'aimer et d'être uni. Seigneur, touche chacun de nos cœurs ce matin. Aide-nous à voir dans nos vies les endroits où on peut travailler pour te ressembler, Seigneur. Oui, ton salut est gratuit, mais te suivre, Seigneur, me coûte ma vie. Et c'est avec joie, Seigneur, que moi, je veux la déposer devant toi encore une fois ce matin. Et j'invite tout le monde, Seigneur, ce matin, qui veulent déposer leur vie devant toi à le faire, à se laisser sonder par toi, à voir mes manquements, mes besoins, à voir, Seigneur, ta grâce sur ma vie, à t'inviter à être pleinement avec nous, à venir souper avec nous, comme tu nous dis dans l'Apocalypse, à être bouillant pour toi, à être authentique, à être accueillant. Seigneur, transforme-nous encore de victoire en victoire, en tant qu'Église, en tant que personne, en tant que frère et sœur. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à te chercher et glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur Jésus. Pour la grande gloire de ton nom, Seigneur. Amen.